18h. Et le journal de Marceline Michon.
Bonsoir. Et si la BCJ volait au secours d'un État jurassien en difficulté financière, la banque fait sa part, assure la présidente du conseil d'administration, alors que l'institution a présenté des résultats historiques ce matin. Non, des tentatives d'enlèvement d'enfants n'ont pas eu lieu dans le Jura ces derniers jours. Conclusion des enquêtes transmises aujourd'hui par la police jurassienne qui veut rassurer la population. Un train qui arrive en retard, une correspondance qui part sans vous, ces situations ne sont pas si courantes en Suisse, selon les CFF. Bilan 2022 de la ponctualité des trains, 92,5% sont arrivés à l'heure. Quelques gouttes ou flocons sont attendus ce soir et cette nuit sur la région. Demain, temps nuageux mais sec, sauf dans les franches montagnes qui pourraient recevoir quelques flocons. Éclaircies attendues dans l'après-midi. Les hypothèques et la sortie des taux négatifs ont porté les résultats de la BCJ à des sommets. La Banque cantonale du Jura a réalisé l'an dernier le meilleur exercice de son histoire. Selon les chiffres présentés ce matin, le bénéfice notamment a atteint plus de 10 millions de francs. La distribution d'un dividende de 5,25 millions sera ainsi proposée à l'Assemblée générale le 27 avril. En difficulté financière, l'État jurassien recevra 2 922 000 francs. Mais ne serait-il pas possible pour la BCJ de donner plus au canton? Écoutez la réponse de la présidente du conseil d'administration, Christina Pamberg.
Il y a trois axes sur lesquels on donne. On donne à travers nos impôts. Il y a aussi les impôts de nos employés, de nos collaborateurs, qui contribuent bien sûr à l'escarcelle fiscale du canton. On donne par rapport à nos dividendes. C'est la raison pour laquelle nous avons monté nos dividendes cette année par rapport à l'année dernière. Et nous donnons aussi par rapport à la forme de rémunération de la garantie d'État. Et sur ce point-là, on est vraiment au maximum. C'est une formule qui est élaborée par l'État. Et là, de manière tout à fait consciente et volontaire, nous donnons vraiment au maximum de ce que cette formule permet de donner. Donc, quelque part, notre volonté, c'est bien sûr de soutenir l'État. Mais notre mission première, c'est de soutenir les entreprises et les clients privés. Donc ça, ça passe par une santé financière de notre institut, un bilan qui a une certaine taille pour justement pouvoir prêter et continuer de prêter de manière conséquente et financer la croissance de l'économie jurassienne.
La Banque cantonale du Jura s'attend cette année à un certain ralentissement au niveau du marché hypothécaire. Avec la hausse des taux d'intérêt, les futurs propriétaires doivent se préparer à des coûts de logement plus élevés. La police cantonale jurassienne rassure une nouvelle fois la population sur les rumeurs de tentatives d'enlèvement d'enfants dans le canton. Elle indique aujourd'hui qu'il n'y a actuellement aucun risque particulier. Les forces de l'ordre ont mené des enquêtes après des signalements d'attitudes ambiguës au Breuleu, à Saucy et à Basse-Cour. Conclusion, rien de suspect à signaler, les précisions de Raphaël Chalvera.
Au Breuleu, une dame s'est trompée sur l'identité d'un enfant qu'elle devait prendre en charge. Elle a réalisé sa méprise rapidement. À Saucy, le conducteur d'un bus blanc a parlé avec des enfants, mais les informations recueillies indiquent que ceux-ci n'ont pas couru de risque. À Basse-Cour, enfin, le conducteur d'un autre bus blanc s'est arrêté alors que des enfants traversaient la route sur un passage. Il a fait un signe de bonjour avec la main et est ensuite reparti. Un amalgame avec les faits précédents est apparemment à l'origine de ce signalement. Pas de danger donc pour ces trois cas. La police jurassienne indique toutefois qu'elle félicite les écoliers qui ont réagi. Leur démarche a permis de faire une évaluation du risque face à des adultes potentiellement mal intentionnés.
On se rend désormais à Moutier, siège de l'association Solidarité avec l'Ukraine, qui poursuit sa mission depuis presque un an. L'association bénévole fournit du matériel de première nécessité aux réfugiés ukrainiens qui arrivent dans la région. L'entité a décidé de lancer un nouvel appel aux dons le 7 février prochain pour récolter en priorité des habits chauds. Les explications de la chargée de communication de Solidaire avec l'Ukraine, Chantal Mérilla.
Ce que nous avions reçu comme vêtements d'hiver pour hommes, femmes, enfants, donc ça a disparu. Parce qu'il faut dire qu'on a presque 200 familles qui sont dans la région et qui sont venues s'équiper dans notre magasin. Donc 200 familles, ça fait plus de 400 personnes. Ça veut dire que nos réserves, ce que nous avions reçu, en tout cas en vêtements d'hiver, ça a quasiment disparu. Et donc par conséquent, comme on voudrait refaire une porte ouverte dans le courant de février, vêtements d'hiver pour les personnes qui encore les nouveaux arrivés, il nous faudrait du matériel, vêtements d'hiver.
Vous êtes confiante pour cet appel au don du 7 février sur la générosité de la population ?
Oui, nous ne faisons pas de soucis. Oui, nous aurons. Donc, je rappelle essentiellement des vêtements d'hiver, hommes, femmes, enfants. Et puis, nous avons aussi des convois jusqu'à Soumy, donc c'est à la frontière russe. Et il apporte là-bas notamment des couvertures chaudes, des sacs de couchage et puis des vêtements d'hommes, évidemment. Ça, c'est plus particulièrement pour les régions sinistrées et puis même pour les hommes qui sont au front. Donc là aussi, nous attendons des couvertures, des sacs de couchage à expédier, à Soumy, en Ukraine.
Chantal Méria avec Damien Piscopiello. Solidaire avec l'Ukraine organise une nouvelle journée de récolte de vêtements chauds. Ce sera le 7 février au Forum de l'Arc à Moutier. La politique d'asile en Suisse et en Europe est un fiasco. C'est sans surprise l'avis de l'UDC qui a lancé aujourd'hui à Berne son année électorale en s'appuyant sur un de ses thèmes fétiches. Le premier parti du pays entend externaliser les procédures d'asile. Les candidats seraient hébergés dans des camps à l'étranger près de leur pays d'origine et c'est là que leur serait octroyé ou non l'asile. Seuls les réfugiés qui disposent d'un statut arriveraient donc en Suisse. La vice-présidente de l'UDC, la genevoise Céline Amoudru, détaille cette proposition.
L'idée, c'est effectivement d'externaliser les procédures. Les dossiers des personnes sont étudiés proches de leur pays, ce qui permet déjà de faire une sélection des personnes qui sont des vrais requérants d'asile et qui ont besoin d'aide et de soutien, ce à quoi l'UDC répond bien évidemment par la positive. Ce que nous combattons, c'est bien évidemment tous les requérants qui sont illégaux. Ce que nous proposons, ce n'est pas une exception dans l'Union européenne, dans la mesure où la Grande-Bretagne, l'Autriche et le Danemark sont également en train d'étudier les mêmes solutions.
Autre thème abordé aujourd'hui à Berne, l'avortement qui n'a rien à faire dans le code pénal selon 90 organisations. Une pétition a été déposée aujourd'hui à la chancellerie fédérale à Berne. Elle demande au Parlement de régler les questions liées à l'interruption de grossesse dans une loi spécifique. La mention de l'avortement dans le droit pénal pose plusieurs problèmes selon Léonore Porchet, conseillère nationale vaudoise du Parti des Verts.
Ça pose un problème d'abord moral, éthique. C'est un stigmate supplémentaire pour les personnes qui souhaitent avoir recours à l'avortement ainsi que les professionnels de la santé. Mais ça constitue en plus une barrière supplémentaire à l'accès à l'avortement parce que ce stigmate moral est une barrière, mais aussi c'est toute une législation qui est très culpabilisante pour les personnes qui ont recours à l'avortement. Et puis c'est aussi utilisé comme une excuse par certains professionnels de la santé qui souhaitent ne pas permettre à leurs patientes d'avoir recours à l'avortement.
Léonore Porcher a déposé une initiative parlementaire pour biffer l'avortement du code pénal. La commission compétente du Conseil national décidera jeudi si elle veut y donner suite. Deux personnes ont été ensevelies par une avalanche en Valais. La police cantonale annonce aujourd'hui avoir retrouvé deux corps sur les hauts de Fuy. Les deux randonneurs étaient portés disparus depuis mercredi dernier. Les trains de voyageurs des CFF ont globalement assuré une bonne ponctualité l'an dernier. 92,5% d'entre eux sont arrivés à l'heure. Cela représente une amélioration de 0,6% par rapport à l'année précédente. La bonne planification des chantiers explique principalement ce résultat, selon les chemins de fer fédéraux. Ça, c'est le constat global. Les disparités régionales sont toutefois importantes. C'est en Suisse alémanique que les trains ont été les plus à l'heure, alors qu'en Suisse romande et au Tessin, des mesures doivent être prise pour améliorer la ponctualité, précision d'Emilie Mumenthaler.
Plusieurs raisons expliquent la bonne ponctualité des trains l'année passée. Les CFF ont amélioré la planification des chantiers avec des tronçons de ralentissement moins nombreux. Seuls quelques travaux nocturnes n'ont pas été achevés à temps pour la reprise de l'exploitation au matin. Selon l'ex-régie fédérale, le modèle de chemin de fer intégré a donc fait ses preuves, ce qui sera important dans le futur avec un volume de travaux en hausse. Le taux d'occupation réduit des trains en début d'année ainsi que la météo clémente ont aussi contribué à ce bon résultat. En Romandie, les retards se sont toutefois multipliés à partir de septembre. Cette situation est due à des réserves d'horaires insuffisantes pour permettre les nombreux travaux de construction en cours. Un nouvel horaire pour la Suisse romande est d'ailleurs en élaboration pour 2025.
Autre chiffre avancé par les CFF, 98,7% des voyageurs ont pu prendre leur correspondance l'année passée. Cela représente un recul de 0,2% par rapport à l'année précédente. En France, deuxième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé cet après-midi contre la réforme à Paris. À leur tête, les responsables des principaux syndicats. La grève est très suivie dans les transports. Les syndicats enseignants ont, eux, annoncé 50% de grévistes parmi les professeurs. La première ministre française, Elisabeth Borne, a joué la fermeté et déclaré que le recul de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans n'était plus négociable. Une embellie en vue pour l'industrie automobile. Le marché européen pourrait rebondir de 5% cette année à 9,8 millions de véhicules vendus. Prévision de l'Association des constructeurs. Selon sa directrice, le marché devrait reprendre doucement après une période marquée par la pénurie de composants électroniques, de nombreuses fermetures d'usines et des restrictions sanitaires.
RFJ, il est 18h11.
Sport. Victoria Golubic mord encore la poussière. La Zurichoise a été battue aujourd'hui dès le premier tour du tournoi de tennis de Lyon. La Suissesse a été dominée par la Monténégrine Danka Kovinic en deux manches, 6-1, 6-4. La Suissesse n'a pas encore remporté le moindre match sur le circuit WTA cette année. Et enfin, le HC Ajoie veut se remettre sur les bons rails dans le championnat de National League. Les hockeyeurs Ajoulous reçoivent Kloten ce soir à 19h45. Alors qu'ils campent sur 4 défaites consécutives, les jaunes et noirs tenteront de profiter de la méforme de leur adversaire qui reste aussi sur 4 revers. Ajoie, Kloten, c'est à vivre sur RFJ ce soir dès 19h30 en direct et en compagnie du défenseur blessé du HCA, Anthony Rouillet. C'est la fin de ce rendez-vous d'actualité. Merci pour votre écoute. Très bonne soirée.